podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Bonjour, monsieur Georges.
Voilà, Safiane, ça va?
Ça va bien. Un joli week-end, long week-end de Pâques. Il fait chaud, il fait beau, il y a du foot, il y a de la famille. Pas de barbecue pour moi encore, mais ça va venir.
Un petit congé pascal tranquillo, là. Ça fait du bien, là. Le soleil, la chaleur, ça aurait été mieux d'assister à un match. Parce qu'à la maison, on aurait probablement mieux joué aussi.
Mais c'est vrai. À la maison, tous les mots se règlent.
Pas vraiment du tout.
Oui, c'est bel et bien un podcast de foot. Vous êtes bien au Couscous Piripiri, un podcast du Cannes Football Club, dans le réseau du Cannes Football Club podcast. Bienvenue, c'est Sofiane. Moi, c'est Sofiane, lui, c'est Nilton. Vous êtes dans le prologue. On parle un peu de tout et de rien. Tantôt, il y aura des silences radio qui sont pas nécessairement bons pour les podcasts, mais bon, c'est un prologue. Vous écoutez pas, vous êtes les bienvenus. Est-ce que je regarde Netflix? Est-ce que j'ai regardé sur Netflix en ce moment? J'ai fini la saison 1 de Black Summer.
Ok. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Ouais, ton truc de zombie. Ouais.
Ben oui. Voilà, c'était cool.
Ouais, c'est correct.
Ouais, c'est pas wow.
C'est pas encore la même chose, un peu.
Ouais, c'est du 6.
On l'a déjà vu.
Ouais, 6 sur 10.
Ouais.
6 sur 10. Et j'ai revu pour la 15 000e fois, pas sur Netflix, mais sur, je sais plus sur quelle plateforme, The Kingdom of Heaven. Avec Orlando Bloom. C'est un truc, c'est les croisades. Les croisades.
C'est parfait.
En ce week-end de Pâques. C'est les croisades. Orlando Bloom, Saladin. Ouais, tout va bien.
Les morts vivants et les croisades, c'est vraiment très, très tendance à Pâques.
Ah, c'est bon.
C'est ceux qui reviennent de la mort. C'est ça, ouais.
Tout va bien.
On va arrêter là avant de se mettre dans le trouble.
Non, je trouve. Toi, tes comparaisons Mancuso, puis un certain truc, ça c'est un classique Milton.
Ben,
et toi,
je suis resté plus classique, là. J'ai vu le documentaire sur Bobby Robson.
Ah, il est sur Netflix.
Oui, c'est.
Oh,
c'est cool.
Il va me faire pleurer. Oh.
C'est cool de voir. Comme la genèse un peu du conflit Barcelone et José Mourinho.
Oui, c'était son traducteur qui est devenu son assistant après. Ouais, ça c'est vrai.
On voit beaucoup d'images de cette époque-là, entre autres. Il y a José Mourinho qui en parle aussi un peu. Pep Guardiola qui était là comme joueur. C'était intéressant parce que, à un moment donné, il avoue pendant le documentaire que quand il quitte Barcelone, Robson, et il se retrouve, il quitte.
Ouais.
Il pense un peu, là, parce qu'il embauche Van Gaal après une saison de grand succès. Là, dans le fond, Robson gagne 3 fois sur 4 et il est remplacé par Van Gaal. Après ça, il se retrouve à Newcastle et Guardiola lâche un coup de fil. À Robson, puis il avoue que l'Angleterre, c'est un rêve. Mmh. Il aimerait ça, faire un petit passage en Angleterre comme joueur, tout ça. Donc, c'est assez rigolo de voir comment, hein, finalement, tout se tient. Hein. C'est pas pour rien qu'il est retourné, qu'il est allé en Angleterre. Puis Robson lui dit, non, sais-tu quoi, j'ai déjà trop de bons joueurs, j'en ai pas besoin. pas besoin d'un autre. C'est... L'autre documentaire que j'ai vu qui est assez fou... C'est sur le pétard de Jérusalem.
Oui, tu avais tweeté dessus. Puis, oh mon Dieu, c'est hardcore, c'est intense. J'avais vu le reportage, puis le documentaire BBC, là. Ouf. Oh là 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 là.
Wow. Quel club. Je le connais. Ben, tu sais, oui, je connaissais de nom, là. Sa renommée footballistique, oui, un peu. Mais je savais pas qu'ils étaient si. Comment dire, puristes. Ben. Racistes, parce qu'ils s'auto-proclament racistes eux-mêmes.
Oh oui, en plus, avec des chants assez hardcore. Et...
Oh oui.
Je sais pas trop quoi. Ouais, c'est très intéressant,
franchement. Là, c'est pas quelque chose de lourd. C'est vraiment un contexte là, hyper instructif.
Exactement. Mais la controverse et le fait que les fans s'expriment
pleinement qu'ils n'aiment pas les Arabes et que c'est la seule équipe. À un moment, c'était la seule équipe qui avait pas de joueurs arabes.
Ou, ouais, ben, justement, c'est ce reportage.
C'est sur un joueur arabe qui a joué.
C'est sur le fait que le propriétaire, un juif russe,
ouais,
qui son but, c'est juste foutre le bordel et accessoirement peut-être devenir le maire de Jérusalem, décide de.
Wow, croisade, chercher... zombie. Ben, attends, c'est incroyable.
Décide de recruter deux Tchétchènes musulmans. En sachant très bien que le bordel va poigner.
Wow, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. C'est ce reportage dont il parlait exactement sur l'arrivée de ces deux joueurs-là. Puis je pense que je vais aller voir ça. Là.
Et le documentaire de Robson. C'est bien fait. Franchement, il y a du beau stock. Il faut souvent fouiller. Là.
Mm-hmm.
Mais c'était plus intéressant que le week-end. le match
de l'Impact de Montréal. Ouais. C'est pas une fois. Ah ouais, je suis rentré dans une sorte de. Un trou sans fond hein, quand regarder plein de vidéos YouTube et des liens sur les grills barbecue Weber. Donc si jamais ils nous écoutent, moi ça ne dérange pas d'être sponsorisé par Weber, mais ton aussi je pense avoir un bon barbecue Weber grill. Donc voilà, Weber si vous écoutez, Germain la Rivière, Home Depot, tout ça, ben on est là. Je prendrai bien des barbecue Weber parce que je suis intéressé à en acheter un ou pas si vous voulez m'en donner un.
T'es dégueulasse.
Dégueulasse. Bon, ben, ça conclut ce petit prologue. On va aller passer en mode.
Du barbecue à acheter. On va parler de nos joueurs qui aiment faire du barbecue ensemble.
On va parler du méchoui qui a été cuit sur le terrain des Philadelphie. Donc, voilà, ben, sur ce, merci d'avoir écouté ce prologue. Bienvenue au Couscous Piri-Piri. Puis on commence dans 3, dans 2, dans 1.
MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. CAN Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le CAN Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 9 du Couscous Piri Piri saison 2019. Merci beaucoup d'être là, Sofiane avec vous comme d'habitude et bien sûr mon compère, mon co-host, sans lui il n'y aurait pas de podcast, le seul et unique, Nilton George.
Oh my God, qu'est-ce qui se passe? C'est trop de beaux compliments. Là. Tu sais que c'est toi le générateur de ce podcast-là, c'est tout le contraire. Là. Sans toi, il n'y a pas de
société. C'est parfait. Moi, c'est Couscous, lui, c'est Piri Piri. Nous sommes Couscous Piri Piri. Merci de nous écouter. Merci, Nilton, pour ce compliment aussi. Évidemment, comme certaines équipes, les 1-2, on sait les faire, à l'instar d'une certaine équipe ou d'autres. Un peu difficile. Excusez-moi. Too soon pour les flèches vers l'Impact, on va attendre. Je voudrais remercier Spreaker qui nous sponsorise pour les prochains 12 mois, qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit. Allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Oui, c'est un sponsor, mais aussi on utilise Spreaker pour distribuer tous les podcasts du CANFC, incluant celui-là. Donc, on aime beaucoup. C'est distribué vers Apple Podcast, vers Google Podcast et vers d'autres plateformes de balado diffusion de haut niveau. Donc, c'est facile à gérer. Vous pouvez gérer plusieurs émissions sur un même compte, etc. Donc, je vous conseille fortement Spreaker.com. J'ai aucune commission, juste que je le conseille. Puis, si vous voulez faire un podcast, vous pouvez de contacter si vous avez besoin d'aide technique, on peut tout le temps vous aider, juste pour tchatcher un peu. Et évidemment, un gros merci, et le plus gros merci toujours, à la Forge du Malte, la microbrasserie du 12e joueur, à nos amis à Trois-Rivières qui nous sponsorisent depuis un an, et c'est la deuxième année avec nous, on les remercie encore. Nous, on fait des playoffs, et avec la Forge du Malte, on va aller loin, donc merci encore. Laforgedumalte.com, regardez leurs produits, allez visiter leur excellente dégustation à Trois-Rivières. Peut-être serait un excellent endroit pour aller voir des matchs. Un jour, Nilton, on ira faire un après-match. Pourquoi pas? Et puis, merci beaucoup d'être là. Allez sur la carte de bière sur leur site web pour trouver où vous pouvez acheter les micro-bières La Force du Malte. Donc, elles sont excellentes, je vous le conseille. Et vous pouvez tout demander à nos fans qui en parlent régulièrement sur Twitter. Ils peuvent donner des conseils, évidemment. Le désespère, c'est Alec et Borat. Simonon, donc c'est eux là, si vous voulez vraiment la bière à prendre du côté de la Forge du Malte pour accompagner votre steak, votre crevette ou votre match de l'Impact, allez les contacter, ils vont vous aider. Et donc sur ce, Nilton, On est là, oui. Épisode 9, on s'est congé Pascal. Impact 0, Philadelphie 3. Rapidement, l'alignement partant, mais on le connaît déjà, mais c'est une façon pour moi d'essayer de dire le nom du joueur nigérien que je vais peut-être pas dire. Evan Bush dans les buts, Lovitz, Raitala, Diallo, Sagna dans le défense à 4, Taider, Piatazira, ensuite Noville, Oroti et Oyonko.
Oh, tu l'avais pris. Ton problème, c'est que tu mets un Y quelque part.
Oyonko.
C'est Okwongo.
Okwongo, voilà. Okwongo.
Je sens qu'il va falloir que tu te dépêches là, pour apprendre son nom.
Ouais, il sera pas là en juillet.
Non, il va être là pendant toute la saison, selon moi, mais comme titulaire, probablement, de moins en moins.
Rapidement, du côté de Philly, Blake dans les buts, Gaddis, Elliott, Colin, Wagner dans un 4-2-3-1, Bedoya, Medunjanin devant la défense, Ilzinho, Montero, Aronson, derrière Corey, et Impact Killer, Burke. Donc voilà, c'était un match intéressant comme Milton. Malgré que c'était ennuyant, c'était intéressant. Corey Burke qui marque à la 14e, Montero sur penalty juste avant la mi-temps et ensuite Bedoya à la 57e qui clôt le match. Donc un match assez intéressant, Nilton, assez ennuyant aussi. J'ai revu le match un peu comme en suivant la tradition du Piri-Piri. J'ai revu le match, j'ai pris quelques notes, j'ai mangé un gâteau à la mi-temps, puis j'ai fait un blackout. Donc la deuxième mi-temps, j'ai du mal à bien observer. Donc j'ai pas pris beaucoup de notes sur la deuxième mi-temps, mais c'était pas mal fini à la 57e minute. Donc assez intéressant. Tu sais quoi? On passe directement en question. Comme ça, on voit avec des sujets. Mais je pense que ça va être juste Nilton. Juste ton avis personnel, ton feeling sur ce qui se passe. Est-ce que t'as l'impression que tu tweets, je tweet, tu dis, on dit la même chose?
Oh God.
J'ai l'impression qu'on va se répéter sur des choses assez évidentes, puis je commence vraiment à m'emmerder un peu.
Ouais. Tu as raison à 100%, puis on dit la même chose peu importe le résultat du match.
Ouais.
Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que les gens se rendent compte de ce qu'on dit seulement quand l'équipe perd. Parce que ce qu'on dit entre nos critiques envers ce club-là existe quand c'est du 0-0 ou quand on gagne petitement 1-0 à la maison. On le dit. On le dit que quand on gagne, c'est parce qu'on réussit. On a 2-3 occasions maximum. On en met un. En face, ils peuvent avoir 5-6 occasions et ils en gaspillent. On gagne 1-0, mais on critique la façon de gagner. Arrive la défaite, on dit exactement la même chose, mais là, on est sévère. On est sévère parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas piété. Que c'est normal d'être mauvais si on n'a pas piété. Moi, je dis non. Ce n'est pas normal d'être mauvais si on n'a pas piété. Ça explique le problème de cet effectif.
Exactement. C'est un symptôme de quelque chose qui est là depuis longtemps. OK, non, t'as raison. Il y a plein de choses. Il y a Camacho, on va en reparler pour la énième fois. Oroti, on va en reparler. Même je garde espoir sur Oroti encore, mais je pense que l'espoir est presque fini.
C'est pas la même chose, Oroti. Oroti... Ouais. Oui, on a été sévère, mais on a été juste avec Oroti. On a essayé d'avertir ce qui s'en venait avec Oroti.
Ouais.
Là, présentement, c'est encore moins bon que prévu.
C'est vrai.
C'est pas de sa faute.
Exactement. Je suis d'accord avec toi. On va en parler, mais c'est Oroti.
Camacho, ça, c'est différent.
Ouais, on va en parler. On va en parler, ouais.
Ouais.
Camacho, c'est une catastrophe. Ok, on va prendre on a beaucoup de questions sur Camacho. Il y a François Beauclair. Est-ce que Camacho peut être racheté pour aller chercher des renforts? Ça prend un joueur capable de tenir le ballon et incapable de prendre des tirs. Il y avait qui? Autre question avec Camacho. Il y avait juste ça.
Il y a François. Ouais, François nous avait demandé une question sur Camacho. Il y a Guillaume Desmarais. Est-ce qu'on pourrait l'échanger?
C'est ça. Michael T. Michael _T, _QC. Si Camacho n'est plus dans les plans, qui devient numéro 4 en défense centrale? Si Raitala est considéré central, qui est la doublure de Daniel International Lovitz? Donc ça, c'est une bonne question par rapport à ça. Guillaume Desmarais, comme tu as dit, pourquoi ne pas changer Camacho contre caisse de bière et donner une promotion à Thomas Meyer-Giger? C'est pas fou.
Éventuellement, ça va être ça, là. Thomas Meyer-Giger, que ce soit cette saison ou la saison prochaine, il s'enligne pour être le quatrième défenseur central du club. Et c'est logique.
Ouais, ça devrait être ça. Avec ce club, c'est logique. C'est logique de voir Bahia et Chouanière. Ça me fait plaisir de les voir. et qui joue. Je vois ça plus qu'une exception comme autre chose. Maintenant, ok, on va parler de Camacho. Camacho, ça fait son deuxième match de suite qui n'est pas sur la feuille de match. On ne sait même pas s'il fait le voyage. S'il a fait le voyage. J'ai aucune idée. J'ai pas checké les Instagram stories des joueurs. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc. J'avais tweeté intelligemment parce que j'aime m'auto-congratuler. Genre, cette défaite, tout ce qu'elle fait, c'est cacher le fait que, encore une fois, il ne joue pas. Gros transfert, transfert. Un joueur qui a été transféré. C'était un transfert de 1. Gros salaire de 2. Contrat longue durée 3. Et puis, toutes les catégories de TAM, GAM, AM, etc. ont été impliqués par rapport à ce joueur-là. Ou pas. En tout cas, il y a de l'argent dépensé, du budget. Quelque chose, du budget planifié a été mis envers ce joueur qui était déjà inconnu
c'est
avant.
Sûr qu'il y a du temps.
Oui, parce que pour. Sinon, il serait joueur d'été.
S'il coûte 700 000 en salaire et 700 000 en transfert, on est automatiquement dans le cadre d'un joueur d'épée. C'est fou, hein?
Ça me stresse.
On parle d'échange pour un joueur qui, ça fait moins d'un an qu'il est à Montréal.
Puis il a tellement peu joué que je ne sais même pas ce qu'il vaut. Mais je sais qu'on avait un doute. On se dit, j'espère qu'on va donner du temps pour qu'il joue. Comme le Vilo, pour moi, mérite du temps, comme tout le monde mérite du temps un minimum. Mais là, s'il va s'entraîner, il l'inclut même pas dans son 18. Son 18, il doit faire un choix entre Cabrera et avoir un Bahia. Oui, choisir entre trois joueurs, Bahia, Cabrera et Camacho, et on regarde deux. Je garde Cabrera et Bahia. C'est peut-être ça sa logique. Mais ça fait peur d'un investissement aussi énorme en MLS, pas en Ligue 1, pas en Liga Española. En MLS, avoir un joueur avec ce contrat aussi lourd, avec un investissement aussi lourd fait par le club, pour le voir ne même pas jouer. Ça, c'est grave. Ça, c'est du anti-moneyball. Ça, je sais pas si on va blâmer Rémi Garde ou Desantis ou Vassili.
Vassili, il était pas là, mais.
Je sais, moi, c'est Rémi Garde à prendre le blâme, parce que pour moi, c'est son recrutement, à mon avis. Sinon, s'il n'est pas, qu'il le dise, parle. T'as un micro là, deux fois par semaine, parle et dis pourquoi t'as cherché ce joueur et dis-nous pourquoi il joue pas. Moi, le passeport de Novilo, c'est marrant. Le Piatti, joue pas au jeu de cache-cache, c'est marrant. Mais Camacho, qu'est-ce qui se passe? Quoi, tu vas attendre la question de Filosa qui te la pose 15 fois pour que je réponde? C'est à un moment, il faut dire. C'est un grand investissement pour le club. Et ça revient à ce que je dis, le déséquilibre du recrutement sur la défense n'est pas justifiable voyant l'attaque nulle de ce club-là. Donc, en plus, ce déséquilibre dans le recrutement défensif, il est encore plus déséquilibré parce que le gars n'est même pas dans le 18 de Rémi Garde. Donc je me dis, il y a un problème grave dans la structure de ce club par rapport à son decision-making. Et je me pose la question, est-ce que c'est le moment d'avoir un vrai directeur sportif? Mais on en reste débat après. Nilton, tu laisses à ton tour de parler. Excuse-moi.
C'est bien. Mais tu vois, Camacho, ça me fait pas. Quand je vois un an plus tard ce qui se passe avec Camacho, je pense souvent à ce qu'on se fait reprocher, toi et moi. C'est.
On fait trop la fête, c'est ça?
Non!
Quoi?
Va pas là. Fais attention à ce que tu vas dire.
Exactement.
tu m'as déstabilisé, là. God. Bon. Ce qu'on sait. OK. Rewind. On parle pas de party. Ce qu'on nous reproche souvent quand on voit les joueurs, c'est d'être trop rapide
sur la gâchette. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Tu te souviens quand Camacho est arrivé, c'était pas terrible. On était rapidement rempli de doutes envers ce joueur-là et t'entendais, comme d'habitude, les mêmes personnes nous répéter c'est trop vite, il faut attendre. Attendez. On sait jamais combien de temps qu'il faut attendre, mais il faut attendre.
Et avec ma personnalité, moi, j'ai dit oui, je vais attendre. Mmh. Je suis un gars gentil, je vais accommoder, je vais attendre.
Mais moi, j'aime pas attendre. OK? Rapidement, quand un joueur est pas bon, on le voit assez vite. Alors, on attend. Et là, tout d'un coup, 4, 5, 6 semaines plus tard, ce joueur-là obtient un bon match. Et là, boum, rapidement, on pointe. Tu vois?
On vous l'avait dit.
Il fallait attendre. Mais là, il y a eu un bon match. Pendant 6 semaines, il était nul, mais pendant un bon match, c'est assez pour toi. OK, fine. On a beau leur dire, Camacho, c'est pas terrible. L'année passée, en fin de saison, on l'a dit, Camacho, Cabrera, je vois pas beaucoup de différence.
Exactement.
À part le salaire.
Exactement.
En début de saison, on s'est dit, Camacho...
Avec Diallo.
Ouais.
C'est la bonne pige.
Peut-être, mais rapidement, on a vu Cabrera passer devant. On savait que Cabrera avait passé devant parce que Raitala était blessé. Logiquement, ça devait être Raitala. Et on s'est dit, cet été, je vois pas pourquoi il va se faire dire Camacho commence à magasiner un club. Mm-hmm. Et là, depuis deux semaines, il n'est même pas dans le 18.
Même
tout
pas.
Ça, tout ça concorde.
Oui, et puis c'est...
Camacho,
c'est... Ça confirme tout ce qu'on... Ça confirme exactement ce qu'on dit. Ça veut juste dire, les gars, vous êtes trop forts. C'est ça que ça dit. Ça dit, les gars...
Et s'il est tranquille, s'il dit rien, s'il ne rouspète pas, et tout se fait logiquement, ça confirme seulement que Camacho sait qu'il va partir cet été. Il est en train de se magasiner une option. Non, les options de rachat, c'est pas faisable en MLS. Les rachats sont possibles seulement en intersaison. On l'a déjà fait avec Petrasso, comme on l'avait fait avec Lefebvre. On rachète un contrat, ça sort de la masse salariale, c'est beau. Mais Camacho a un contrat garanti. On peut peut-être faire un Donadel, c'est-à-dire le mettre sur les waivers. Mais il y a quoi? Il y a 3 ans plus 1, c'est ça, son contrat?
Ouais.
C'est
un suicide financier par un club MLS US déjà, parce que place internationale, de un, place internationale,
ouais.
Déjà ça c'est le premier critère, de deux, il fait combien, de trois, il joue comment. Alors là, si le critère 1 et 2 sont remplis pour un club, le critère numéro 3, un club n'a aucune idée ce que ce gars vaut à MLS, de façon positive.
Je suis convaincu que l'Impact de Montréal... parler à toute la ligue pour savoir s'il y avait quelqu'un d'intéressé à Camacho.
Mm-hmm.
C'est sûr, il aurait pu donner pour absolument rien, mais obtenir un Camacho, c'est pas seulement le joueur le problème, c'est son contrat, c'est sa place internationale, c'est tout ça, c'est immense comme fardeau. C'est la seule porte de sortie, c'est un transfert, un prêt cet été. Et de cette façon, on est capable de, un, libérer une place internationale, de libérer l'espace sur la masse salariale, mais entre-temps, il faut le préserver.
Exactement.
Il ne faut pas trop l'exploser, parce que la seule fois où on l'a explosé, malheureusement, c'est un match de 7 à 1. Là. C'est ça la vitrine qu'on a faite de Camacho. Là.
Non, c'est un lose-lose pour tout le monde dans ce cas-là. Et
il y a une certaine réputation en Belgique. C'est sûr que là-bas, il va y avoir des preneurs. Il va y avoir des preneurs comme nous. On est preneurs des fois. T'sais. On est preneurs d'un gars comme Novillo qui a perdu sa place un peu partout. Donc, si nous, on a acheté un Novillo, c'est sûr que quelqu'un quelque part va acheter ou va prendre une chance avec Camacho. C'est sûr qu'on va perdre de l'argent. Mais au moins, on n'aura pas tout perdu.
Non, c'est vrai, mais c'est un très bon point. C'est un très bon par rapport à la comparaison.
Que,
ouais.
C'est pour ça que je dis qu'un gars comme Thomas Maillard-Giguère ou n'importe quelle autre académie, l'impact de Montréal doit avoir une profondeur qui provient de son académie. Et espérer, en attendant d'avoir une autre alternative, là, mais d'espérer que les joueurs qui sont sous contrat dans la MLS, ces jeunes comme Chouanière, comme Baya, éventuellement comme Thomas Maillard-Giguère, c'est eux qui vont exploser et prendre une place, soit dans le 18 ou éventuellement dans le 11. Il faut combler nos places titulaires par des valeurs sûres.
Mm-hmm.
Des valeurs sûres, c'est pas en prenant des gambles, non. Des valeurs sûres, il faut sortir l'argent. Et
non,
ça, qui va décider ça? On va me dire Kevin Gilmore, mais Kevin Gilmore n'a pas cette expertise-là. Dites, désolé, gang, là, il ne connaît pas le foot. Il va falloir qu'il se fasse conseiller autour de lui. T'sais. Un gars comme le Duc, Rémi Garde, jusqu'à un certain point, mais Rémi Garde n'est pas là pour durer. Là. Si ça ne va pas cette saison, s'il ne fait pas les playoffs, désolé, là, il ne sera pas là l'année prochaine.
Oh, oui, ça c'est vrai. Moi, si c'est catastrophique comme ça durant la saison, j'aurais dit il finira pas la saison, mais on avait parlé en off. Non, ça va pas arriver en termes de contrat, c'est trop compliqué. Non, c'est vrai. Mais ce qu'on disait sur Camacho, on peut l'appliquer sur peut-être Novillo et d'autres joueurs à différents moments de la saison si ça marche moins bien pour le club et pour ces joueurs-là. Mais c'est intéressant. Camacho, on en a déjà parlé. On vous a prévenu. ça sentait louche. Et on dit pas qu'il est mauvais nécessairement, on dit qu'il est mauvais avec l'Impact. Il y a quelque chose qui cloche avec le club, c'est tout. Entre lui et le club, ça marche pas, ça arrive. Si en Belgique il était bon, même dans un club inconnu que je connaissais pas trop en Belgique, il était quand même Belgique, il faisait un salaire, il était payé, il était pro et tout. Mais voilà, avec un Montréal, ça marche pas. Bon, allez, next question.
Je vais retourner un peu en bas. Philippe Ordonez nous a posé une question qui m'a fait un peu rire.
Il en pose des bonnes questions, lui, j'aime bien Philippe.
Est-ce que le trident offensif Urruti, Novilo, Okwango est le plus mauvais de la ligue?
Ouf. Je ne les connais pas tous, mais il est vraiment mauvais. Il est vraiment mauvais.
C'est un peu injuste parce que ça ne devrait pas être celui-là.
Oui, c'est
pas le trio.
On aurait dit, est-ce que le duo Okonkwo Urruti est le plus mauvais duo de la ligue, ou Novilo Urruti, parce qu'il aurait bien dit côté gauche. Non, c'est vrai. Mais honnêtement, tu sais, quand je vois ce trio-là, je vois trois joueurs qui jouent chacun de leur côté, sans vraiment savoir ce qui se passe. Alors, au niveau chimie, c'est assez décevant. Quoique, je trouve que Urruti, il se démarque de temps en temps. Tantôt, il fait des bonnes choses. Tantôt, il est perdu parce qu'il fait trop. Okonkwo, je trouve qu'il a le sens de faire les bonnes choses, mais j'ai l'impression qu'il veut trop faire et qu'il est juste pas assez bon. Je suis pas sûr. Il a été sorti à la mi-temps. Je dis, ok, bon, c'était pas le plus mauvais, là, mais, parce que c'est lui qui a eu, quoi, c'est de son côté qui a eu deux chances de marquer du côté de l'Impact. Donc,
ouais, mais je pense que c'est surtout ce qu'il y avait de disponible sur le banc correspondait à sa position, donc c'est lui qui a écopé.
Oui, et puis Tadej Rossi a écopé qui avait fait une assez mauvaise première mi-temps. Quoique, j'ai revu la main, j'ai dit que c'était pas si mauvais que ça.
Aujourd'hui, on parle d'un pépin physique.
Je viens de voir, oui, il s'entraîne avec Piatti en solitaire, donc je me suis dit, Tadej était pas si mauvais que ça. J'ai vu les commentaires, j'ai revu, je dis, je vais revoir le match à tête reposée.
Il y a eu des plus mauvais. Levit, je ne sais pas ce qui se passe avec lui.
Ouais, ben.
Sur le terrain, il a l'air un peu démotivé.
Je ne sais pas s'il est démotivé, mais je pense que.
Par exemple, sur le dernier but. Ouais. Sur le dernier but, ouais. Ok, oui, c'est 2-0. Mais voir un gars comme Sagna venir sur le côté gauche, essayer de couper le tir au but pendant que Levit regarde un peu autour de lui. Mm-hmm. Heureusement, il n'y aura pas un hors-jeu d'appelé. Mm-hmm. On l'a vu aussi un peu. Son expression corporelle a l'air un peu. Je sais pas si.
Parce que t'as l'impression qu'il y a des problèmes avec ces négociations contractuelles qui font que peut-être.
C'est le lien facile à faire, là, mais on n'en sait rien. Mais sur le terrain, il n'a pas l'air à être le même entrain, la même.
La
vocation.
Mais il était bien au début. Orlando, même Houston, il était bien.
Ah.
C'est Columbus qu'on a vu. Je trouve que l'équipe est juste moyenne. L'équipe, que même malgré un style ultra défensif, vraiment, c'est juste pas assez bon. C'est pas assez bon par rapport à mes attentes. Mes attentes ont augmenté par rapport à l'an dernier.
Ce que je remarque pendant le match, c'est que les joueurs, mettons le trio offensif là, que Philippe a soulevé, c'est comme si les trois n'avaient pas conscience de leur responsabilité réelle dans ce trio-là.
Ouais.
Urruti, c'est clair. Lui, il est là pour faire le lien entre le milieu, des fois même la défense,
oui,
et l'attaque.
Oui.
Pourquoi c'est lui? Parce que Azira n'est pas capable de le faire. Parce que Piet, c'est pas dans son rôle.
Il a d'autres choses à fouetter, déjà.
Ouais, et c'est difficile de le faire. Tu sais, c'est difficile d'être un récupérateur et de meneur de jeu en même temps. C'est les joueurs qui sont capables de faire ça, il y en a peu dans le monde. Demandez ça à Piet, déjà qui excelle dans la récupération. Ensuite, avoir la lucidité de se retourner, de dribbler ou de faire la passe qui va tuer, c'est dur, hein? C'est très, très dur. Azira n'a pas non plus cet esprit-là, cette vision de jeu offensif. Donc, Urruti vient presque toujours compenser ce manque-là. Une fois qu'il fait ce travail-là, il fait bien, c'est fini. Là, je veux dire, l'action offensive se termine là. Pourquoi Novilo tarde à devenir l'avant-centre? Okwango, un peu unidimensionnel, course, difficile, il n'y a pas toutes les qualités qu'il faut pour battre un défenseur un contre un.
Tout à fait.
Il centre, mais un peu n'importe où. Pourquoi? Parce que là où je reproche un peu, c'est Urruti, une fois qu'il a fait ce gros travail-là, il tarde à rentrer dans la surface. Là. Des fois, il marche Il fait même pas un jogging, il marche vers la surface. Je comprends pas pourquoi. C'est quoi son objectif? C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de rester en haut de la surface pour récupérer un ballon. Ça devrait pas. Parce que c'est pas vrai que, comme qu'on parlait tantôt, c'est pas vrai que c'est intelligent de mettre $1 million sur un gars comme un avant-centre pour faire un travail qu'un joueur à 400 000 peut faire.
Non, en termes d'investissement, ça fait peur, je suis d'accord. Même avant la saison commence, son extension était un peu... OK, il a une grosse confiance envers lui, tant mieux.
C'est 3 ans, là.
C'est beaucoup. Mais à la limite, je pense qu'il va se rattraper. Hein? D'une façon ou d'une autre, pas aussi bien qu'on voudrait, mais il va se rattraper un minimum, je pense.
Routy, c'est un joueur qui va fonctionner en duo, dans un 4-4-2.
Oui, puis on parle qu'à 4-2, là. Dave Lévesque le début d'une fois, on le remarque un peu. Sinovello n'est pas assez rapide pour être un ailier. Et puis, qui, supposément, on dirait qu'il a une belle frappe, notamment avec son but contre Columbus. Est-ce que c'est peut-être mieux de le mettre comme faux attaquant, tant qu'à y être, dans l'axe? J'en parlais un peu avec Vincent Détouche et toi sur Twitter hier. Je me dis, en termes de ce qui se passe,
par rapport à l'impact.
Oui, encore plus. Mais je me dis, moi ce qui me dérange avec l'impact, c'est qu'il y a des ailiers qui sont pas des ailiers explosifs. Ça me stresse un peu. Parce que le but d'Anneli, c'est d'être un 4-3-3. C'est un 4-3-3, là, c'est un 4-5-1 offensif. Si tu attaques pas, t'es en 4-5-1. Donc, tu bétonnes et tu défends. Donc, en 4-3-3, si t'as pas Piatti qui fout le bordel et qui déséquilibre l'adversaire, les autres, ils vont faire quoi? On disait, chacun, le trio est un peu pourri par rapport à la question de Philippe. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut de son côté. Il n'a pas une chimie qu'on voudrait. Mais pour dire par rapport au contrat, que c'est encore, c'est pour prouver mon point, c'est que dès que je vois Chouanière rentrer et Bahia, ils font la différence. Donc moi, ça me stresse un peu par rapport à leur rapport. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce que c'est un problème d'attitude? Est-ce que c'est un problème de formation? Moi, ça me stresse.
Si tu dépenses 700 000, 1 million de dollars, il ne faut pas qu'il y ait de point d'interrogation à côté. Si je regarde Chouanière et je regarde Novillo, oui, il y a des différences entre les deux joueurs. Tu sais, oui, un est meilleur dans d'autres. Mais à terme, est-ce qu'il y a 600 000 d'écart entre les deux? Je dis non.
Non, exactement. Et puis, je pense même à notre ami Oduro. Oduro, dans cette équipe, c'est un génie maintenant. Je blague pas. Oduro, maintenant, c'est un génie.
Et c'est là qu'on peut revenir à la conversation qu'on avait tantôt, tu sais, soit un directeur technique, soit un recrutement, whatever. On dirait qu'à chaque recrutement, c'est un recrutement par défaut. Ah, quelqu'un m'a suggéré Camacho. On y va. Personne ne peut contredire ce recrutement-là.
Ouais.
Rémi Garde ne le connaît pas. Il avait dit qu'il ne l'avait pas connu. Il n'a pas le temps de superviser. Qui le supervise? On envoie en catastrophe Nick DeSantis voir un match ou deux puis signer rapidement. Il n'y a pas de... Qui ose dire, sais-tu quoi, Novillo, c'est peut-être pas une bonne idée, hein? Sylvain, ouais, c'est 4 millions. Je sais que tu l'aimes pas beaucoup. Je sais qu'il tape ses nerfs parce qu'il te gaspille des occasions. Mais entre les deux, le joueur de foot, c'est Sylvain, c'est pas Novillo.
Ah oui, de loin. On va pas refaire le débat, mais le départ de Sylvain, je le trouvais très prématuré, footballistiquement. Maintenant, Rémi Garde, c'est le chef à bord. Correct. Il y a, comme tu as dit, il y avait de l'argent qui était impliqué, qui était intéressant. Certes. Mais je suis désolé, là. Novillo, là. En ce moment, il est meilleur buteur que Routy. Au niveau talent, je trouve qu'il est, son instinct offensif est clair, mais est-ce que c'est vraiment un ailier pur et dur?
Non. Ben non.
Ben c'est un problème.
Mais c'est clairement non. Il est incapable de battre un défenseur central en vitesse. Un défenseur central, il est pas capable de le battre en vitesse. C'est pas un ailier, ça. C'est quoi ses capacités de dribble et de un contre un? Sur l'aile.
Moi je trouve. Non, pas du tout.
Au moins, Sylva, il faisait quoi? Sur un côté, il apportait du danger. C'était le bordel quand il y avait le ballon dans les pieds.
Ah,
oui, quand il arrivait dans la surface, peut-être qu'il essayait des trucs puis ça fonctionnait pas. Mais il foutait le bordel.
Ah, son impact physique et les courses, c'était super intéressant. Puis c'était c'était le volet droit différent mais intéressant par rapport à Piatti.
Il y avait un contrepoids.
Une autre dimension dans le jeu. Alors que Okonkwo, c'est vraiment une dimension différente de Novillo, ça c'est clair. Mais à un moment donné, c'est un niveau beaucoup plus bas. Je suis désolé, ça fait mal. Si Urruti, déjà, il y a des occasions de tirer direct, il fait pas. Il fait des passes dans la surface de réparation alors que c'est un attaque en pointe. Ça me stresse. Novilo, il est pas assez rapide, mais on verra. Okonkwo, il est jeune, il vient de Bologne en prêt. À un moment donné, si Piatti n'est pas là, on fait quoi? Tadier, il fait un non-match. Et c'est lui la clé offensivement pour ramener du surnombre offensif pour l'impact avec ou sans Piatti.
Mais on n'est pas surpris.
Je fais juste des constats, puis c'est stressant. Oui.
Mais
c'est
ton stressant. Compte rendu au 9e match, là, puis qu'on devrait être content parce qu'on a, 7 matchs sur 9 à l'étranger, là. Mais le compte rendu au 9e match, ce compte rendu-là, il n'a pas été changé par rapport au mois de novembre.
Non, c'est du pareil au même, honnêtement. C'est ça qui est embêtant. Je ne veux pas trop négatif, là. La saison est longue, l'impact va probablement faire les séries. Parce que je pense qu'une autre équipe va se casser la gueule dans l'Est, je pense. Et j'espère que l'impact va se réveiller. Mais ça change pas ce que je dis va s'appliquer, ce qu'on dit va s'appliquer, là. C'est pas sérieux. C'est parce que Piatti, pas Piatti, t'es ultra défensif, et ensuite. Et en plus, moi, ce qui me dérange, oh, la petite, oh. Elle pleure, la petite. moi, ce qui me dérange par rapport à ça, c'est que Piatti ou pas Piatti, et le discours de Rémy Garde, quand on a gagné, c'est le résultat qui compte. Ok, mais quand il n'y a pas de résultat, on fait quoi? Quand tu te fais taper 3-0 par Philly, on fait quoi?
Non, il n'y a pas de plan.
Il te reste quoi à part le résultat? Tu joues mal et tu perds. Et tu n'as aucun renseignement pour le reste du match. Tu sors Tider, un de tes meilleurs joueurs, et Okonkwo. Et New England, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Chicago, là, samedi au stade, je pense.
Ouais.
On a vraiment bonne chance.
Ouais, Chicago, c'est une belle petite équipe offensive avec l'ajout de Gaetan et tout. Là, le réveil de Nikolic. Ça sera pas facile samedi. Parlant de Novilo, il y a Olivier Boulian nous demande est-ce que c'est une signature flop ou simplement encore un temps d'adaptation à la MLS. LP Barbou, voyons, Bardou Niotis, pardon.
Opa.
nous demande notre plus grande déception jusqu'à maintenant, est-ce que c'est Urruti ou Novilo?
Urruti est la mienne parce que nos attentes sont hautes, sont beaucoup plus grandes envers Urruti qu'envers Novilo, même si Nilton, tes attentes étaient assez basses pour Urruti, ça c'est clair, beaucoup plus basses que les miennes. Mais je pense que Urruti me déçoit beaucoup parce que j'ai des grandes attentes pour qu'il puisse lever cette équipe à un autre niveau. Mais bon, pas au niveau de Divayo Drogba, mais au moins qu'il soit un minimum qui ait du punch. C'est ça qui m'emmerde un peu par rapport à lui.
Ouais, puis ça a été beaucoup d'argent, on a investi pour Urruti.
Énormément. Mais c'est une valeur sur un malaise, donc peut-être il est échangeable dans le futur. Peut-être.
Et ce qu'il apporte dans un match, il y a beaucoup plus d'influence dans un match que Novilo.
Oui, et puis Novilo aura besoin d'un temps d'adaptation, il n'y a pas le choix. J'ai pas le choix de lui donner ça parce que j'ai donné du temps d'adaptation à des joueurs pires que lui. Donc lui, il le mérite. C'est le gars de garde, j'espère qu'il va rendre. La confiance que Garde met en lui. Parce que sinon, lui, il est mis comme titulaire, clairement, dans le système de Garde, plus pour le moment. Parce qu'ils ont fondu Silva pour le ramener lui. Donc, c'est être un peu, c'est être délicat s'il performe mal et puis en plus d'enchaîner les matchs. Là, on aura un problème. Puis ça, c'est en mois de juin, on va le savoir, hein. On n'a pas besoin de beaucoup de matchs, là. Dans 5-6 matchs, on va dire ok, si la tendance se maintient, voilà quoi. Ça sent la supercherie chez certains joueurs, mais je veux pas que ça arrive. Je veux qu'ils jouent bien. Je veux avoir du beau jeu. Je veux avoir une identité de jeu assez claire. Et j'en ai marre de ce schéma ultra défensif où on a peur, de ce discours de la peur et de la méfiance et de je sais pas quoi. À un moment, il faut vivre. Hein, 2019 là.
C'est ça qui me tue, c'est que les gens se contentent. Que du classement et pas du spectacle. Moi, ça me tue de voir les gens être contents. Oh, on a un beau classement. Mais ce beau classement, c'est aucune garantie pour la suite.
On le verra dans 6 matchs, ce classement-là. S'il est meilleur, tant mieux. Mais
le discours du président ou du directeur du personnel que je veux entendre, c'est qu'on veut construire une belle équipe. Une équipe qu'on est fier de voir jouer, qui nous représente. Une équipe intéressante à suivre, une équipe que les médias vont être intéressés à cette équipe-là. Là, c'est pas ça qu'on a du tout, là.
Non, mais même en termes d'identité, à part d'être défensif, ce qui est assez basique dans le foot, je vois pas trop ce que ça fait. Même le contre, on le maîtrise pas encore, mais j'ai l'impression qu'on est encore une année de recommencement. Mais encore une fois, il y a des facteurs X qui doivent confirmer, puis j'espère que Moretti, comme Livio, que ça confirme, avec un retour éventuel de Piatti. Sinon, encore une fois, ça va faire mal en juin.
Donc, juste pour répondre à Michael T qui nous demande le hashtag no playoff, point d'interrogation, non, il est
trop tôt.
Non, trop tôt, et heureusement pour les points qu'on a tous ramassés, ils vont compter. Ça nous sauve d'une catastrophe parce que heureusement, on a été capable d'être hyper opportuniste, efficace. Et ça me laisse croire que dans le futur, on va aller chercher quelques points de cette façon-là. Et la situation de Piatti n'est pas catastrophique. Là. On le voit courir tout ça. J'ai pas l'impression, à moins qu'ils soient très, très, très coquins, là, l'Impact de Montréal, que c'est une situation très grave, une blessure très grave. Ils sont plus en mode de le préserver pour éviter. J'aime mieux cette façon de faire-là. Qu'on le fasse pas jouer mercredi, c'est 100% normal. S'il faut ne pas le faire jouer encore contre Chicago, c'est correct aussi. Il faut se garder ce Piatti-là en pleine forme parce que le plan de match de l'Impact de Montréal, il est basic, c'est donner le ballon à Piatti et d'espérer qu'il lui... C'est hallucinant de voir comment ce joueur transforme le club de l'Impact de Montréal. Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans la Ligue qui est capable de transformer un club.
Ah ouais, c'est
juste par sa seule présence. Zlatan le fait avec LA. LA, sans Zlatan, c'est une catastrophe. Parce que lui, c'est une efficacité folle. On le voit avec de l'autre LAFC avec Carlos Vela qui a transformé ces clubs-là. Et on l'a vu l'année passée avec Wayne Rooney, mais Rooney n'est pas tout seul. Wayne Rooney est...
Il est entouré, mais il est venu métamorphoser une équipe qui était plus bonne qu'on pensait, mais on ne savait pas avant qu'il vienne.
Tout à fait, c'est exact. À Costa, personne ne parlait de lui. Peu de gens le connaissaient. Il est devenu une cible pour des transferts européens par la présence de Wayne Rooney. Mais ailleurs dans la Ligue, c'est beaucoup plus des collectifs qui font le succès du club. À Montréal, il n'y a tellement pas de collectifs, en tout cas offensifs. C'est très, très triste de voir un quatuor ou si on inclut Piet, ces cinq joueurs-là tellement désamorcés quand une fois qu'ils ont le ballon puis qu'ils voient aucune option à gauche, à droite, ils sont incapables de faire quoi que ce soit avec des passes vers l'avant, sont toujours obligés de finir par donner le ballon à Evan Bush qui balance devant. Mais balance devant sur qui? On n'a même pas un joueur sur qui se reposer. C'est pas un joueur de pivot, c'est quelqu'un qui revient, mais c'est pas un joueur de pivot, il gagne aucun duel aérien.
Regarde, il n'y a pas un Corey Burke qui joue en USL? Je sais pas, il n'y a pas d'attaquant USL que l'Impact peut aller dénicher pour dépanner un peu? Pourquoi pas?
Est-ce que l'Impact de Montréal regarde les matchs de USL?
Clairement que non. Clairement que non. Allez, une dernière question pour boucler la boucle.
Étienne Bélanger, c'est la grande question. Quel est le... Quel numéro qui nous manque le plus? Est-ce que c'est un 8, un 9 ou un 10?
Numériquement, c'est un 8. Un autre milieu de terrain qui fait la différence. T'as Urruti va débloquer avec un autre 8, avec Tader et Piatti, et avec Piatti. Ça va débloquer.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. La façon que cette équipe-là est construite, forcément, c'est soit un 8 ou un 10.
Exactement.
Malheureusement, moi, ce que j'aurais voulu... Cette équipe-là a juste besoin d'un finisseur.
Oui.
Le vrai problème de cette équipe-là, c'est le 9. Mais on a décidé de le donner à Urruti. Mais je te le dis, on enlève Urruti, on met un gars qui finit des actions. Le match de Philadelphie, c'est probablement un match nul.
Oui, puis c'est révélateur de voir qu'il y a quelques occasions dans la boîte pour Urruti qui aurait pu déclencher un tir, n'a pas fait, alors qu'un attaquant avec l'instinct l'aurait essayé. Qui marque pas, c'est une autre question. Mais Urruti doit être beaucoup plus un requin qu'un poussin en ce moment parce que il est gentil, il est altruiste, mais il faut vraiment qu'il prenne la responsabilité de marquer des buts, même s'il met beaucoup d'efforts à faire du pressing, etc. Voilà quoi, parce que moi les attaquants qui courent là c'est bien, mais ceux qui marquent pas, mais les attaquants qui courent c'est bien, mais ceux qui marquent pas, c'est grave.
Non, mais oublie pas, la France a été championne du monde avec Giroud. Ouais. Ça, c'est la nouvelle. Ça risque d'être la phrase de 2019.
Ouais,
ça.
Parce qu'ils avaient Vargas et Novilla avec eux aussi. Ouais. À la place Dembélé et Mbappé.
Pour les coups francs,
oui.
Ça aussi, Vargas en était un qu'on était trop tôt, hein. Puis qu'on s'acharnait un peu trop sur lui.
On est trop méchant, Nilton. Il faut arrêter. Sinon, personne ne va nous écouter. Sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté pour ce 9e épisode du Couscous Péripéri. J'espère que tous passer un joyeux congé de Pâques. Nilton, merci encore.
Yep. Bonne chance avec la petite, quoi, qu'à l'heure, elle s'est réendormie, là.
Ouais, c'est possible. mais il faut qu'on arrête là. Donc, merci encore tout le monde. Merci pour vos questions. C'est grand apprécié. N'oubliez pas patreon.com/CanFootballClub pour supporter le CanFC. Et évidemment, écoutez-nous, lisez-nous sur Twitter, sur Facebook, canfootballclub.com. Et supportez-nous. Mais c'est pas compliqué. $1 peut nous aider, énormément. $1 par mois. Merci encore à Speaker. Merci encore à la Force du Malte. Moi, c'est Couscous, le CPRIPIRI. Et nous, c'est le CCPP. Ciao tout le monde.
Ciao, bon match mercredi.
Bon match.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.